Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Graponne pour cette émission L'invité du jeudi. Aujourd'hui, notre invité du jeudi s'appelle Sarah Perret. Elle vient d'écrire un livre qui s'intitule La Petite aux presses de la Cité et elle a remporté le prix Jean Anglade. Voilà. Eh bien, on va la découvrir dans quelques instants dans ce roman qui est un petit peu étrange d'ailleurs, mais vous allez le découvrir vous-même en compagnie de Sarah Perret qu'on va rencontrer dans quelques minutes.
Fancy gloves though, where's Maggie dear? So there's not a trace of red on the sidewalk to wait, dear. Bet you Maggie's back in town. Look at you, Louis Miller.
Et bien voilà, comme annoncé pour cet invité du jeudi, on va retrouver Sarah Perret, qui a écrit un roman qui s'appelle La Petite aux presses de la Cité et qui a gagné le prix Jean Anglade. Elle est avec nous. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue à vous. On va vous découvrir un petit peu. D'abord, vous êtes née à Chambéry, hein. Donc, c'est la Savoie, la Haute-Savoie, je sais jamais, moi.
C'est la Savoie.
Donc, vous avez fait des études de lettres modernes, vous êtes enseignante. Vous avez déjà gagné un prix de la nouvelle érotique en 2017 avec Sparagmos, donc qui a été publié dans le recueil Ta maîtresse humblement, au Diable Vauvert. Et vous avez soutenu une thèse en décembre 2020 à l'Université de Montpellier, édition critique des œuvres de Sarrazin. Voilà, ben déjà une actualité bien chargée, hein.
En effet, alors je n'ai pas gagné le concours de la nouvelle érotique, mais je fais partie des 5 finalistes.
Ah, d'accord.
Et effectivement, ma nouvelle a été publiée dans le recueil que vous avez mentionné.
D'accord. Alors bon, on va voir que je pense que c'est totalement différent, votre livre, de la nouvelle que vous avez, qui a été publiée. C'est votre premier livre ?
Alors, en réalité, bon, j'avais écrit d'autres romans, mais qui n'avaient pas trouvé un vrai éditeur. Donc, on peut dire que c'est mon premier roman publié.
D'accord.
Et là, il est publié aux presses de la Cité et qu'en plus, il a le prix Jean Anglade.
Oui, alors c'est un... oui, déjà, c'est bravo d'avoir eu le prix. Et puis, les presses de la Cité, c'est quand même un bon éditeur. Votre livre va être diffusé un petit peu partout, hein, ce qui est quand même intéressant. Alors bon, ce livre paraît un petit peu particulier, hein, quand même, parce que... On a deux enfants, hein, là, Jean et sa petite sœur Ophélie, donc qui, alors vous êtes toujours dans votre région, un peu entre l'Isère et la Savoie, dans les montagnes de la Chartreuse. Ils sont chez leurs grands-parents, ils sont orphelins, hein, donc voilà, ils ne connaissent rien de leurs parents en fait, sinon ce que leur raconte un peu leur cousin. Et on va voir que ces enfants, sont hantés par certaines choses.
Oui, tout à fait. En fait, donc ces deux orphelins, frères et sœurs, vivent chez leurs grands-parents. Et depuis toujours, ils sentent qu'on leur cache des vérités. Souvent, lorsqu'ils s'approchent des adultes, lors des fêtes de famille, les adultes baissent la voix. Lorsqu'on regarde des photos de famille, des photos sont rapidement retournées pour ne pas que les enfants les voient. Donc il y a un climat un peu lourd qui pèse dans cette vieille maison que les enfants ressentent cruellement. Et donc ils vont par hasard faire une découverte au grenier qui va déclencher une série de révélations qui vont nous apprendre à nous lecteurs les liens véritables qui unissent les membres de cette famille.
Dans la région qu'on a citée tout à l'heure, on est à la fin du XXe siècle, mais tout n'est pas encore arrivé, la vraie modernité n'est pas arrivée dans cette région.
Oui, tout à fait. Ça se passe effectivement dans un petit hameau non loin d'Entremont-le-Vieux, en Chartreuse. C'est un hameau de montagne. Et effectivement, même si on est à la fin du XXe siècle, on y vit un petit peu comme au siècle précédent. Ce sont les travaux et les fêtes religieuses qui rythment un peu les jours. Et...
Oui.
Voilà, et donc c'est en bien cela que ça se passe.
Oui, alors c'est pour ça que... Alors, vous nous dites que, par contre, ces enfants, eux, ils pressentent les choses. Hein, ils pressentent les drames et ils en souffrent. Et ils ont des secrets eux-mêmes. Hein, c'est un petit peu ça.
Alors, bon, la petite, qui a 5 ans, elle ne cache aucun secret. Hein, c'est vraiment une toute petite fille qui découvre la vie, tout lui paraît grand et merveilleux. En revanche, son frère, qui a 12 ans, et qui commence à entrer dans l'adolescence, est très sombre, il est moqueur, mesquin, arrogant, et on va découvrir qu'en effet, malgré ses 12 ans, il est porteur déjà d'un lourd secret.
D'accord, oui, tout au long du livre, c'est ce que vous allez nous faire découvrir.
Voilà, et puis les adultes aussi ont leur cachotterie et on va découvrir tout cela le long du livre. Oh, je ne peux pas trop en dire.
Ah ben non, faut pas nous révéler la chute. Voilà. Mais alors on comprend qu'on est quand même dans la campagne. On sait déjà que dans les campagnes, il y a beaucoup de... C'est très secret, hein. Les gens sont très secrets. C'est pas, on parle pas beaucoup, on se livre pas beaucoup. Donc pour eux, pour les enfants, c'est encore un petit peu plus compliqué.
Oui, c'est vrai. Les Savoyards ont cette réputation d'être des taiseux, surtout les montagnards. Et voilà, c'est exactement le milieu que je décris. Hein, et voilà, l'aïeul d'ailleurs, qui est l'un des personnages du roman, a un dicton pour signifier cela. Elle dit « Derrière cise et buisson, il ne faut pas dire sa raison. » Ça signifie qu'il faut derrière les buissons, il vaut mieux se taire.
Et alors, ce roman est sorti de votre imagination ou vous êtes inspiré de quelque chose?
Alors, je me suis beaucoup inspirée des histoires d'enfance, déjà de mon enfance, des histoires que mes parents me contaient sur leur propre enfance, de ce que m'ont raconté mes grands-parents, des histoires locales aussi. Et puis j'ai fait un mélange de tout cela et j'ai laissé aussi libre cours à mon imagination. Voilà, et c'est le produit de tout cela qui a donné ce roman.
Alors, bon, vous nous dites votre premier roman publié, La Petite, donc vous allez vraiment sur cette petite fille. Finalement, ils sont deux, mais c'est la petite fille qui vous intéresse le plus.
Oui, alors ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que la première version de ce roman, je l'ai écrite à 16-17 ans, et je mettais plutôt l'accent sur le grand frère. D'ailleurs, ça s'appelait Mon grand frère. Et aussi, j'avais situé cette première histoire dans la maison familiale paternelle. Et quand j'ai repris ce roman en 2017, je l'ai situé plutôt dans la maison familiale maternelle et j'ai décidé que ce serait la petite, l'héroïne et non pas le grand frère. Il y a eu une évolution là dans la genèse de ce roman.
Oui, dans la première, ce que vous aviez écrit en premier, après vous avez changé de direction, je dirais, pour vous appuyer plus sur cette petite fille hein, que... Vous dites en délicatesse et passion, fragilité et violence, elle brode, elle tricote. Et en fait, elle va conduire le lecteur au travers de ce roman dans les tours et les détours de l'âme enfantine, hein, puisque là, on va être vraiment 5 ans, on est quand même encore un enfant. Hein.
Exactement.
Et alors, est-ce qu'elle est en avance par rapport à ses 5 ans, par exemple?
Alors non, en fait, c'est vraiment un personnage tout naïf, tout simple, tout modeste et vraiment qui va découvrir avec candeur la vie à travers la famille, les relations avec son frère. Et d'ailleurs, la vie est assez dure avec elle, hein, même si c'est une petite fille qui est toute... vraiment toute fragile, tout plein d'amour. Et peut-être que vers la fin, elle va quitter un petit peu les rives de l'enfance après avoir traversé tout ce qui va lui arriver.
Oui, parce
mais
que...
tout au long du livre, elle est dans le merveille, dans un monde merveilleux.
Ouais, dans le monde des enfants, hein. Les enfants se créent toujours des mondes un petit peu merveilleux.
Oui.
Et donc, elle n'a pas connu ses parents, donc elle n'avait pas les grands-parents, les tantes. Alors, est-ce que vous en profitez? Vous avez vous-même fille d'agriculteur ou de personne de la campagne ou pas du tout?
Voilà, exactement. Mes grands-parents étaient paysans de moyenne montagne.
D'accord.
Et bah, ce roman, c'est une manière aussi de leur rendre hommage. Ils sont tous décédés aujourd'hui. Et je me suis beaucoup inspirée pour les personnages des grands-parents des grands-parents que j'ai connus. Hein. J'ai fait un mélange d'ailleurs entre mes quatre grands-parents pour créer le personnage du couple Jules et Euphrosyne, hein, les grands-parents de l'histoire.
Alors vous-même, pendant vos vacances, vous alliez chez vos grands-parents, vous avez connu un petit peu les labeurs de la ferme?
Oui, exactement. Hein. Finalement, je me suis beaucoup inspirée de ça, des foins que... Voilà, des foins que faisaient mes grands-parents, des fêtes, des foins fin juillet où toute la famille se retrouvait avec tous les cousins, les cousines, où il y avait entre les enfants des grands jeux de cache-cache, de Colin Maillard, dont je parle dans ce roman.
Oui, puis vous
là, oui, j'essaie de la restituer.
Oui, vous parlez des fêtes religieuses parce qu'on sait que la campagne, bon, les fêtes religieuses, c'est toujours très importante, donc on revenait un petit peu sur ces fêtes qui ont un peu disparu au XXIe siècle, il faut bien le dire.
Oui, et c'est vrai que le monde montagnard les a conservées longtemps, toutes ces traditions. Hein. On allait à la messe tous les dimanches. Alors l'érogation à mon époque, ça ne se faisait plus trop, même si j'évoque ce rituel de la campagne, mais... Mes parents ont connu certains rituels comme le nom m'échappe, mais en tout cas il y a certains rituels catholiques que je mentionne dans le roman et que mes parents ont vécu.
Oui, puisqu'à l'époque, nous aussi, on est en campagne et nous, enfants, on a connu les fêtes Dieu, hein, donc qui était une magnifique fête.
Voilà, c'est la fête Dieu.
Voilà, c'est ça, puisque moi, il n'y a pas longtemps que j'en ai reparlé avec des curés du coin, je leur disais, mais vous plaignez que vous avez personne dans vos églises, mais relancez la fête Dieu. C'était, nous, on était tout gamins, mais on en garde des souvenirs, c'était énorme, c'était quelque chose de... Il y avait une, sans parler des gens qui allaient à la messe, qui n'allaient pas à la messe, c'était pas le problème, mais tout le monde adhérait à ces fêtes, et c'est dommage que c'est un petit peu disparu, ça.
Et oui, parce que c'était très beau, avec ces jonchées de pétales,
voilà.
Ces déambulations. Ah oui, moi, quand mes parents m'en ont parlé, j'ai trouvé ça merveilleux, c'est pour ça que j'ai intégré, j'en ai parlé dans mon roman.
Ah oui, parce que c'est, bah oui, nous on était à l'école, et ben, pendant le mois de mai, à la fin de l'école, on allait ramasser les fleurs des genêts, les fleurs dans les champs, et puis quand c'était ben, la procession, ben, on avait des paniers, on jetait les fleurs. Alors en plus d'être beau, ça sentait bon. Alors c'était quand même...
Oui.
Et donc c'est vrai que c'est des choses qui ont disparu, donc dans votre roman, vous en parlez quand même un petit peu, vous.
Oui.
Et alors...
À la fois des
oui.
connues et celles que je n'ai pas connues et qu'on m'a contées et qui m'ont semblé magnifiques.
Ben oui, c'est sûr qu'il faut s'appuyer, quand on est plus jeune, hein, il faut s'appuyer sur un peu ce que nous disent les anciens. Alors vous parlez des visites aussi. Qu'est-ce que vous entendez là par les visites?
Alors, eh bien, c'est vrai qu'à la campagne, il y avait vraiment une vraie dimension humaine. On allait les uns chez les autres, le portable n'existait pas, les relations se faisaient vraiment dans le monde réel, hein, dans les maisons, dans les contacts réels qu'on avait les uns envers les autres. Il y avait vraiment une dimension humaine que j'ai essayé d'évoquer dans
oui.
mon roman, et qui malheureusement, je trouve, semble se perdre dans notre monde actuel.
Ben, ça se perd un petit peu. Bon, déjà, la télévision est arrivée, donc ça n'a pas arrangé les choses. C'est vrai que dans le temps, il y avait les veillées, hein, ça c'était traditionnel. Les gens se recevaient d'une maison à une autre. Et dans les coins, ben, comme vous, qui étiez en moyenne montagne, donc il y avait l'hiver, il y avait la neige, ben, tout doucement, l'hiver passait.
Oui. Et oui, et puis j'ai souvenir, justement, vous parlez de veillées, d'avoir passé des soirées avec mes grands-parents... On n'allumait pas la télé, c'est le grand-père qui racontait ses histoires, ses souvenirs de guerre. Et c'était passionnant, il avait un vrai talent de conteur, mon grand-père, et j'ai essayé de l'évoquer d'ailleurs dans la personne de Jules. Et ce sont vraiment des souvenirs très forts d'enfance, les contes que nous faisait mon grand-père à la veillée.
Ben oui, puisque justement c'était la tradition orale, hein. On sait, on connaît surtout ça en Afrique, où il y a beaucoup de traditions orales, puisqu'il y avait peu d'écrits à l'époque. Et ouais, ils expliquaient un peu ce qu'ils ont vécu. Alors ceux qui ont vécu la guerre, bien sûr, c'est pas ce qu'il y avait de plus marrant, mais enfin bon, ils expliquaient quand même comment ça s'était passé. Et peut-être que pour les jeunes enfants, les jeunes adolescents, ça situait un petit peu ce qu'avait vécu leur grand-père.
Exactement, oui, vous parlez d'une tradition orale. Justement, j'ai essayé d'en rendre compte dans mon roman, dans le style, en fait. J'ai essayé d'intégrer un petit peu les tours de phrase de mon grand-père, de mes grands-parents, pour restituer un petit peu de cette oralité qu'il y avait dans les veillées.
Oui, on voit que vous êtes très imprégné par cette ruralité. Ça continue parce que maintenant, vous enseignez à Pézenas, toujours, c'est à côté de Montpellier.
Exactement, oui, c'est un petit bourg.
Oui, c'est connu, Pézenas, hein, bien sûr. Mais c'est très différent quand même de la Savoie, hein, ou de la Haute-Savoie.
Oui, très différent, effectivement. Je pense que, d'ailleurs, peut-être que mon roman est un peu imprégné de la nostalgie de ma Savoie natale, hein, où ont vécu tous mes ancêtres.
Oui, puisque là, vous avez la mer, d'accord, mais il n'y a plus la neige. C'est très rare, hein, dans le sud. Donc, c'est tout plat, déjà, hein, puisque, alors quand on est dans votre région, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de vallées. Donc, c'est très différent. Mais bon, vous, à travers ce roman, ben, vous revenez un petit peu sur votre enfance, quoi.
Oui, exactement.
Alors, vous, je pense que vous n'avez pas
eu. C'est une manière de voyager dans le passé.
Voilà. Je pense quand même que vous n'avez pas eu la vie de votre. De la petite, hein, que vous avez une vie quand même un peu meilleure.
Ah oui, tout à fait. En fait, c'est pas du tout une autobiographie. Hein.
Non, mais on a bien compris.
C'est vraiment juste une petite part de moi, on va dire, la partie la plus fragile, voilà, dont j'ai fait un petit personnage.
Oui, et donc La Petite, hein, c'est le livre dont on parle aujourd'hui avec Sarah Perret, qui a gagné le prix Jean Anglade. Alors quand même, pour vraiment un premier roman que vous publiez aux Presses de la Cité, ça doit faire chaud au cœur de gagner un prix, puis le prix Jean-Claude, c'est pas n'importe quoi, quoi.
Oui, surtout que voilà, c'était un concours sur manuscrits. Il y avait 400 manuscrits en lice. J'ai d'abord fait partie des finalistes et ensuite, voilà, j'ai été la lauréate. Alors, ça a été une grande joie, d'autant plus que je savais qu'à la clé, il y avait cette publication aux Presses de la Cité. Oui, c'est vraiment une grande satisfaction, une grande joie que j'attendais depuis longtemps, puisque ça fait une petite dizaine d'années que je cherche un éditeur pour mes romans. C'est voilà, un grand bonheur, l'impression que le destin me sourit.
Ah ben, comme quoi, il faut jamais désespérer, c'est ce qu'on dit, hein. Donc, vous avez continué. Et vous avez continué d'écrire, à part La Petite, vous avez d'autres romans sous le coude ?
Oh, oui, alors déjà, j'ai un tiroir plein de manuscrits.
Ah, déjà ?
Et ensuite, je suis lancée dans un nouveau roman.
D'accord, donc là, ça vous... En plus, ça vous encourage, hein, parce que quand on gagne un prix comme ça, ça veut dire que votre écriture est belle, hein, parce que en général, dans ces jurys, on donne pas un prix n'importe comment, surtout le prix Jean Anglade, hein, qui lui nous a quitté à plus de 100 ans et qui avait écrit plus de 100 romans, hein, donc vous en êtes pas encore là.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai lu deux de ces romans que j'ai beaucoup aimés. Oui, effectivement, il paraît que le jury a beaucoup apprécié mon style. On m'a dit que qu'on avait apprécié le choix de mots justes, qu'on m'a dit que le jury avait été touché par mon écriture très sensible. Voilà ce que j'ai retenu de ce que l'on m'a dit.
C'est bien. Et alors, moi je dirais pas que c'est un peu normal, mais quand même, hein, parce que vous êtes professeur agrégé, docteur de lettres, vous avez fait des études de lettres. Le vocabulaire, la grammaire, vous connaissez quand même.
Voilà, heureusement.
Oui, et
c'est vrai que de nombreux écrivains n'ont pas forcément, enfin, parmi nos plus grands écrivains, tous n'ont pas été professeurs.
Ah ben sûr, non, oui.
Beaucoup d'auteurs qui finalement, comme Jack London, ne viennent pas d'un milieu
Ah oui, bah, bien sûr. Oui, mais vous, c'est quand même un avantage, hein, je dirais.
Oui, on va dire cela comme ça.
Et la thèse, alors que vous avez soutenue à l'Université de Montpellier, vous l'avez soutenue pourquoi ? Pour valider votre doctorat ?
Voilà, oui, c'était une thèse sur les poèmes de Jean-François Sarrazin, un auteur méconnu du XVIIe siècle, qui est mort à Pézenas.
Ah, d'accord.
J'ai envie de travailler sur lui. Et effectivement, cette thèse avait pour but de valider mon doctorat. Voilà, avec l'intention peut-être un jour de travailler à l'université.
Très bien, parce que pour le moment, vous êtes en lycée, là.
Voilà, j'ai juste donné quelques cours à la faculté l'année dernière. Mais voilà, pour avoir un vrai poste en faculté, il y aura encore d'autres démarches à faire.
Oui, ben là, on arrête. Ben oui, il faut essayer d'arriver. Ben, ça peut être de plus en plus intéressant. Alors, on sait que le français se perd un petit peu. Hein. Tout le monde se plaint que les curriculum vitae sont truffés de fautes. Donc, revenir peut-être un peu à notre langue française et surtout à notre grammaire, à notre écriture, parce qu'on tape sur des ordinateurs, maintenant on n'écrit plus déjà, mais éviter peut-être de faire des fautes, parce qu'il y a des gens qui ont des très hautes situations et qui ne savent pas faire une phrase sans faire trois fautes, quoi.
Et oui, et ça, je peux vous le confirmer.
C'est pour ça que je vous le dis.
Et c'est vrai que je le déplore aussi, hein, cette génération des écrans qui ne lit plus guère et qui, du coup, connaît mal son orthographe. Alors heureusement, il y a encore des élèves hein, qui sont brillants, qui lisent beaucoup, et ça fait plaisir.
Oui, alors oui, justement, ben ça m'amène une autre question, parce qu'on parlait justement que les gens ne lisent plus. Alors je crois que c'est quand même un petit peu faux, parce qu'on se rend compte, quand on rencontre des éditeurs, quand on voit le nombre de livres qui sortent, on a l'impression quand même que les gens lisent, parce que c'est bien beau de sortir des livres, mais s'ils restent dans les rayons, c'est pas bien. Et apparemment, les gens lisent quand même. On se rend compte qu'il y en a beaucoup qui lisent.
Oui, oui, oui. Surtout des romans contemporains. Je crois peut-être qu'on lit moins les classiques, mais je pense qu'il y a de grands lecteurs de la littérature contemporaine.
Oui, puisqu'il y a, bon, certains critiquent un petit peu les auteurs du terroir, mais bon. On voit que ça a éclaté. Hein. Il y a une période, on n'est pas autant, mais nous, on voit le nombre de livres qu'on reçoit et sur le terroir, qui finalement sont des bons livres et puis qui nous permettent de découvrir certaines choses que je pense que certains ne connaissent pas. Alors, pourquoi critiquer ? Moi, je suis pas trop pour, mais on se rend compte que les bons... Alors, je parle toujours des bons auteurs hein, du terroir. On voit qu'ils vendent beaucoup de livres, donc c'est très bien, ça. Ça donne envie.
Oui. Effectivement, je crois qu'en médiathèque, on achète beaucoup de romans du terroir qui sont beaucoup empruntés par peut-être une certaine génération, mais je crois qu'effectivement, beaucoup de gens aiment qu'on leur raconte des histoires, de vraies histoires déjà, et puis des histoires qui se passent à la campagne.
Ben peut-être un peu comme vous, hein, parce que finalement vous nous entraînez à la campagne, Savoie, Haute-Savoie, voilà. Et alors, dans vos élèves, est-ce que ils ont su, je pense qu'ils ont su que vous avez gagné ce prix, que vous avez écrit ce roman, ils vous en ont parlé ou pas ?
Oui, alors déjà l'an dernier, je l'ai annoncé à tous mes élèves qui m'ont félicité. Et puis cette année, je me suis présentée en tant que professeur et auteur à tous mes nouveaux élèves et je leur ai montré mon roman en espérant avoir beaucoup de lecteurs. Ils ont été curieux, la plupart, ils m'ont demandé ce que ça racontait. Et puis le roman sera dans leur CDI, donc j'espère qu'il y aura il y en a beaucoup qui l'emprunteront.
Ben c'est bien, et puis qu'ils liront, et puis peut-être ça vous donnera l'occasion de faire un cours là-dessus, voir ceux qui l'ont lu, ce qu'ils en ont pensé. Pour vous, c'est pas mal, parce que c'est quand même des adolescents. Donc là, vous parlez de très jeunes, mais les adolescents n'ont peut-être pas la même vue que les adultes.
Oui, effectivement, ce serait une bonne idée. Je n'y avais pas pensé, mais effectivement, si j'ai pas mal de lecteurs dans une classe, on pourrait faire quelque chose à ce sujet et voir un petit peu ce que chacun en a pensé. Ce serait très intéressant.
Oui, mais d'après ce que on a dit là depuis qu'on s'entretient, sûrement que dans vos élèves, en plus ils sont dans le sud, beaucoup n'ont pas connu ce qui était le travail de la terre, ce qui était la campagne à l'époque, les hivers avec beaucoup de neige. je pense que pour eux, ils vont apprendre déjà, ils vont beaucoup apprendre.
Oui, c'est bien possible, effectivement. Là, ça risque d'être un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout. Effectivement, oui.
Alors, vous avez des premiers retours déjà ou pas? Il est sorti quand? Moi, j'ai pas vu quand est-ce qu'il était sorti. Ah bah alors, si, il y a pas longtemps, 29 septembre, oui, c'est tout chaud. Ah, ça, il va sortir.
Il va sortir, voilà. Et
oui, je suis bête parce qu'on est mieux septembre. Et donc, il va sortir, donc vous savez pas encore comment. Enfin, qu'avec un prix Jean Glade, je pense quand même que ça va partir très très vite. Hein, et puis... Donc, les presses de la cité, on connaît des auteurs qu'on rencontre régulièrement. Là, vous avez tiré le bon numéro, je dirais.
Oui. J'espère que le bandeau prix Jean Glade attirera l'attention. Et puis la couverture est belle, d'ailleurs. Hein. Je pense aussi qu'elle pourra jouer en la faveur de ce roman.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la couverture. J'aurais dû commencer par là, peut-être. C'est un dessin, c'est... C'est quoi ça en fait là? Un montage?
Alors, oui, je pense que c'est un montage à partir d'une photographie. On voit une petite et puis en fait on voit en transparence à travers sa tête. On voit des lianes, des arbres et tout est fondu. En fait le visage se fond un petit peu aussi dans l'arrière-plan. Je trouve que ça donne un petit côté rêveur à cette petite qui est là d'ailleurs dans le roman.
Oui, c'est vrai que oui, c'est j'en avais pas parlé, mais moi aussi ça m'a assez séduit hein, quand j'ai reçu votre livre et voir c'est pas traditionnel quoi, c'est pas une couverture traditionnelle qu'on retrouve dans beaucoup de romans.
Oui, et puis il y a ce côté bleuté aussi invite à la rêverie.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça fait d'ailleurs on voit le regard de la petite, on a l'impression qu'elle est en train de rêver là. Hein.
Exactement. Et puis elle a un petit air triste aussi, bon, en relation avec tout ce qu'elle a vécu et qu'on apprendra au cours du roman.
Voilà, donc Sarah Perret, la petite, on en a parlé, bien sûr, on ne va pas vous donner la chute, hein, il faut le lire et voir comment cette petite se sera vraisemblablement transformée parce que elle aura beaucoup appris, hein, donc orpheline, élevée par ses grands-parents, les tantes, les cousins, et savoir. Comment elle va réagir, ça, c'est la trame de ce roman et c'est ce que Sarah vous expliquera lorsque vous serez à la fin du roman. On a à peu près tout dit, Sarah, sur ce, enfin, non, jamais tout dit, mais sans trop dévoiler, on va dire, à résumer, que c'est une histoire qui se passe à la campagne, qui est une petite fragile, mais on a l'impression qu'elle va quand même beaucoup évoluer. Et puis voilà, hein, on verra tout cela dans votre roman.
Voilà, je pense qu'il ne faut pas en dire beaucoup plus.
Ah bah non.
Pour ne rien dévoiler, mais je pense que les lecteurs pourraient apprécier cette histoire et j'espère qu'ils l'apprécieront en masse.
Déjà, il y a le jury de Jean Glade qui l'a apprécié. Je vois pas pourquoi les gens qui vont l'acheter ne l'apprécieraient pas. Donc votre prochain roman, ça sera totalement différent?
Oui, totalement différent. Un roman historique.
Ah, d'accord.
Voilà. Situé au XVIIe siècle.
Et oui, mais toujours dans votre même région ou changer de région?
Alors là, on va passer d'une région à une autre.
D'accord.
Voilà, on va rester en France, mais on passera un petit peu à Pévenas, à Paris.
Vous allez balader vos lecteurs. Vous allez balader un petit peu vos lecteurs. Vous vous intéressez beaucoup à l'histoire, vous?
Oui, effectivement, oui, l'histoire m'intéresse. Et d'ailleurs, même pour la petite, hein, j'ai compulsé quelques ouvrages historiques pour ne pas, pour rester en cohérence avec, par rapport à l'époque que j'évoque.
D'accord. On attend avec impatience le prochain roman qui devrait sortir l'année prochaine.
Non, pas tout de suite. Là, il va falloir peut-être 1 ou 2 ans pour l'écrire.
Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas commencé encore. Enfin, juste quelques trames, peut-être.
Oui, j'ai commencé, mais c'est vraiment le début.
Oui, ça aussi, vous avez un rythme, vous, pour écrire. On sait qu'il y a, nous, on a des auteurs qui sont très prolifiques, ils arrivent à sortir un livre par an. Moi, je suis assez impressionné parce que, sans lasser son public, hein, parce qu'on peut revenir sur toujours un peu pareil, mais vous avez un rythme plus doux, vous, ça va moins vite.
Bah, disons que comme bon, je suis bien occupée par mes cours, j'ai pas un temps infini, mais j'essaye au moins un jour par semaine d'écrire. Et puis pendant les vacances, hein, quand j'ai davantage de temps. Voilà, en tout cas, j'essaye de toujours maintenir, d'avoir toujours un stylo
à la main. Pas loin de vous, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui nous disent, ben, des fois, il y a quelque chose qui me vient. Faut que je le note tout de suite parce qu'après ça peut partir, je peux plus m'en rappeler. Alors c'est vrai qu'il faut le noter rapidement quoi pour voir qu'on oui. On a une idée, ben on la note et puis on verra ce qu'elle va devenir quoi.
Oui, ça c'est ce que je fais depuis longtemps. Adolescente, j'avais plein de petits bouts de papier qui traînaient, j'en avais un cartable plein. Puis des fois je faisais un bilan, je notais tous ces petits bouts de papier sur un cahier. Et c'est vrai que je pratique encore la note rapide de l'idée. Il faut absolument ne pas laisser s'enfuir.
Écoutez, Sarah, merci. On a compris, on comprend peut-être plus pourquoi vous êtes professeur de lettres, hein, parce qu'on a l'impression que vous aimez beaucoup écrire, que vous aimez beaucoup la littérature. Eh bien, au travers de ce roman, La Petite, je rappelle, donc, aux Presses de la Cité, qui vient de remporter le prix Jean Anglade, qui déclarait d'ailleurs, Jean Anglade, ma véritable région, c'est l'homme. Hein, oui, on sait qu'il était très attaché à tout ce qui était sur l'homme, hein, et puis sur sa région, bien sûr, hein, puisqu'il était auvergnat, hein, carrément. Donc, voilà, ben, bravo encore. Merci d'avoir été avec nous. On verra, eh bien, sortir en librairie le 29 septembre, donc c'est-à-dire à la fin de ce mois. On espère qu'il va connaître un grand succès, mais là, j'ai aucun doute, hein, quand on gagne le prix Jean Anglade et qu'on est diffusé par les Presses de la Cité, je vois pas comment ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de votre amabilité. Et bravo encore pour ce prix que vous avez remporté. Merci.
Merci à vous.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, notre invitée du jeudi aujourd'hui était Sarah Perret pour son roman La Petite, édité aux Maisons de la Presse. Elle a gagné le prix Jean Anglade et il sera en librairie le 29 septembre. Donc je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30 et que vous pouvez la retrouver dans quelques temps sur notre site. Merci d'avoir été fidèle à Radio Craponne et à cette invitée du jeudi, Sarah Perret, La Petite, aux Presses de la Cité, prix Jean Anglade 2022. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread.